Les cours du Collège de France, Denis Duboul, chaire Évolution du développement et des génomes.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus braver les conditions adverses. On va donc continuer ce cours. On va terminer aujourd'hui ce que je voulais vous dire sur cette horloge de segmentation qui est vraiment un cas de figure particulier d'un référentiel temporel pendant le développement. Et puis, on va peut-être commencer, si j'ai le temps, autrement on le fera la semaine prochaine, un autre référentiel temporel qui, comme vous allez le voir, est lié de façon très intime, qui est le timer OX. C'est-à-dire l'autre référentiel temporel qui va, lui, être nécessaire pour identifier ces fameux summits dont je vous ai parlé à l'envi pendant ces deux dernières semaines, qui sont des structures itératives qui n'ont pas en elles-mêmes d'adresse génétique. Et donc, il va falloir accompagner ces condensations de summits par quelque chose qui va dire à ces summits « Toi, tu es plutôt dans la partie antérieure ou plutôt dans la partie postérieure. » Ça, c'est le timer OX qu'on verra pour la fin du cours. Alors, un petit résumé de l'épisode précédent pour vous répéter deux, trois choses qui seront nécessaires pour aujourd'hui. Donc, je vous ai parlé la semaine passée de ce phénomène encore assez peu connu, il faut bien le dire, hein, qu'on appelle la gastrulation, qui est donc cette mise en place des trois feuillets germinatifs principaux qu'on a définis la semaine passée, avec l'ectoderme à l'extérieur toujours en bleu, l'endoderme à l'intérieur toujours en jaune. Je le dis si vous avez des ouvrages, c'est un code de couleur qui est toujours le même. Et puis entre les deux, le mésoderme en rouge. Le mésoderme, dans la partie dorsale, ici, va se différencier assez rapidement en mésoderme axial, donc qui va suivre l'axe de l'embryon. C'est ce qu'on appelle la notochorde. C'est en fait une structure qui va disparaître chez nous, qui est un peu l'équivalent de la colonne vertébrale des anciens chordés, par exemple des ascidies, donc ils avaient une sorte de structure rigide pour pouvoir se déplacer, c'est cette fameuse corde. Et puis nous, on a évolué par-dessus une colonne vertébrale et on se débarrasse chez l'adulte de la corde. Et puis latéralement, ici, ce mésoderme paraxial, donc qui est juste latéral de ce mésoderme axial, on a ces fameux summits, qui sont donc ces concentrations de cellules que l'on voit ici. Si vous regardez un peu sur le dessus, là, vous voyez, là, on voit ces summits qui sont déjà condensés dans la partie antérieure. Le postérieur viendrait vers vous. C'est ces agrégats de cellules, ici, qui ici ne sont pas encore visibles. C'est un stade... C'est dans le même embryon, mais dans une partie beaucoup plus postérieure, donc en fait un stade plus tardif, finalement, de développement plus tardif, puisque souvenez-vous, l'embryon de poulet, comme tous les embryons vertébrés, se développe selon une séquence antérieure-postérieure. Cette séquence, vous la voyez là, donc on a une section à ce niveau-là où on a déjà des summits très bien formés, et puis ici, où on commence à avoir là des condensations. Et puis tout ce mésoderme ici, alors c'est de l'ectoderme, mais le mésoderme sous-jacent, là que vous voyez en rouge, dans toute cette partie, c'est ce mésoderme pré-sommitique, donc ce mésoderme qui va se condenser, mais qui n'est pas encore condensé. Et c'est dans ce mésoderme pré-sommitique que l'horloge de segmentation clique. D'accord ? C'est là que ça se passe. Hein ? Donc il va y avoir... Dans ce mésoderme ici, là, on le voit de dessus, donc ce qu'on voit, c'est l'ectoderme, mais dans le mésoderme en dessous, c'est là où on va avoir ces vagues d'oscillateurs qui vont monter, descendre, monter, descendre. Ensuite, je vous ai présenté le papier, la publication en 1997, du laboratoire d'Olivier Pourquier, qui a commencé à déchiffrer cette horloge en isolant le premier gène qui oscille, ce gène qui s'appelait à l'époque HERI1, aujourd'hui qui a changé de nom, qui s'appelle HES. Et on voit ici ces trois étapes d'oscillation en bleu, avec toutes ces cellules-là qui représentent en fait cette partie-là. Hein, cette partie-là, jusqu'au premier summit, là, c'est en fait ce qu'on voit là, c'est cette partie-là, jusqu'au premier summit. D'accord ? Et vous voyez qu'il y a trois étapes. D'abord, toutes ces cellules sont positives pour ce gène, donc elles produisent de l'ARN pour ce gène. Puis ensuite, cette partie-là devient négative. Là, on monte, les cellules positives montent. Pas les cellules. Les cellules qui expriment ce gène se trouvent un peu plus dans la partie antérieure. Puis on va aller antérieur, jusqu'à ce qu'on atteigne ce niveau-là. Et paf, on va condenser un summite et puis on recommence. Ce niveau ici auquel les oscillateurs, les cellules qui oscillent, vont se condenser, correspond à ce qu'on a appelé le front de détermination. On l'a défini la semaine passée. Et on va voir aujourd'hui à quoi ça correspond, ce front de détermination. Ce qui fait que chaque fois que ces cellules oscillent, comme ça, oscillent, ça descend, quand elles arrivent sur ce front de détermination, se produit une catastrophe cellulaire, ces cellules vont se condenser et faire un summite. Alors je vais vous montrer une petite animation, je n'ai pas pu vous montrer la j'espère que ça va marcher. Voilà, je n'ai pas pu vous montrer la dernière fois. Donc vous allez voir ici, sur la droite, en bleu, c'est l'expression de un de ces gènes qui oscille, le gène S. Et puis sur la gauche, en rouge, mais ça, peut-être pas besoin de trop vous concentrer là-dessus, c'est un gradient d'une molécule dont la source se trouve dans la partie postérieure. Donc vous allez voir que l'embryon va descendre, puisque l'axe antéro-postérieur s'allonge. D'accord ? Comme la source se trouve dans cette partie postérieure, la concentration de ces ARN va descendre, toujours en fonction de la distance à la source, ce qu'on verra tout à l'heure. En même temps, vous avez cette oscillation, donc toutes ces cellules vont osciller, et puis il va y avoir une rencontre ici, toutes les 5 heures chez les humains, toutes les 2 heures chez la souris, toutes les heures et demie chez les oiseaux, chez le poulet, et cette rencontre va produire une condensation. C'est ce qu'on voit. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Oui, oscillation, tac. Et ce front, vous voyez, il descend, pour respecter toujours la même concentration, puisque la source est postérieure. Faut vous imaginer un système dans lequel une source de quelque chose est à la partie postérieure, et cette source descend. Comme elle descend, la concentration de ce qui est produit par cette source descend aussi, tout descend. Inversement, vous avez une oscillation des cellules qui oscillent, qui montent, et donc vous allez avoir rencontre, et vous allez condenser ces summites. Le point vraiment critique, ça, j'ai insisté dessus la semaine passée, mais c'est vraiment quelque chose de contre-intuitif finalement, c'est que ces oscillations n'impliquent pas de mouvement de cellules. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer sur ce petit film. Ici, c'est un autre gène qui oscille, ce fameux gène lunatic fringe dont on a parlé la semaine passée, mais peu importe ce que c'est. Mais vous allez voir ce que sont ces oscillations. Vous allez voir que ce gène, ici dans la partie postérieure, là, vous voyez que le premier summit pour l'instant se trouve là. Et donc vous allez voir ces cellules vont osciller jusque-là, formation de summit. Jusque-là, formation de summite. Jusque-là, formation de summite. Mais ce vert que vous voyez là ne va pas bouger. Vous allez voir le vert bouger, mais ce ne sont pas des cellules qui bougent. C'est que ces cellules-là, ici, expriment le gène pour l'instant, alors que ces cellules-là ne l'expriment pas. Ensuite, ces cellules-là n'expriment plus le gène, mais ces cellules-là expriment le gène. Donc, c'est une ola. Hier soir tard, je regardais le résumé de Roland Garros, et en fait, c'est une ola. C'est exactement ça. D'accord ? Il faut vous imaginer que les gens ne bougent pas, mais vous avez l'impression qu'il y a une vague. Mais les gens ne bougent pas. Simplement, ils allument un gène, ils éteignent le gène. Ils allument un gène, ils éteignent le gène. Le tour du stade de Roland-Garros fait 5 heures chez les humains, 2 heures chez la souris, 1 heure et demie chez le poulet. D'accord ? Maintenant, imaginez que vous mettiez à un point donné dans ce stade quelque chose qui régresse, et bien la ELA rentrerait à chaque tour dans ce quelque chose, et ça vous condenserait. Alors là où l'analogie se perd, c'est que ce système est dynamique puisqu'il descend. alors que le stade est fixe. Là, c'est un système qui descend. Et donc, vous allez avoir production cyclique de ce mythe. D'accord ? Avec cette eau-là qui va monter, descendre, monter, descendre. Ça veut aussi dire qu'une partie des gens qui font la Ola, qui participent à la Ola, dans ce système rentrent en catastrophe et se transforment en ce mythe. Donc au fur et à mesure que ça tourne, vous avez de moins en moins de gens qui font la Ola. D'accord ? Quand vous n'avez plus personne qui fait la Ola, eh ben vous arrêtez le système et vous avez terminé l'axe antéro-postérieur. Alors regardons comment ça fonctionne. J'espère que cette fois ça va. Ah voilà. C'est absolument magnifique, hein, c'est très beau, quoi, regardez. Voilà, tac, une semite, tac, une semite, tac, une semite, tac, une semite, vous voyez. Quand on voit ça, on a de la peine à croire que les cellules ne bougent pas. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui bouge, mais non, elles ne bougent pas. C'est vraiment une coordination de l'expression d'un ou de plusieurs gènes, là on a vu, hein, la semaine passée, la voie Notch, etc., qui fait qu'à chaque niveau antéro-postérieur, les cellules se parlent pour qu'elles soient en phase. C'est la OLA. D'accord ? Vous regardez dans le stade les gens qui sont en dessous de vous, en dessus de vous, et vous coordonnez la OLA. D'accord ? Si vous le faites en regardant à droite ou à gauche, c'est fichu. Donc c'est vraiment une coordination sur un axe. Et cette coordination, on a vu à la fin du cours passé, qu'on peut la modéliser, qu'elle dépend de la voie Notch, hein, donc elle dépend de contact entre les cellules qui se parlent en disant « tu en es où dans ton... tu en es là, bon, eh ben, il faut que tu accélères un peu ou il faut que tu décélères un peu pour m'attendre. » D'accord ? Donc soit tu te dépêches pour te rattraper au prochain, soit tu attends, comme ça je te rattrape au prochain. Et on a vu des petits modèles qui étaient proposés pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Alors, finalement... ces trois voies de signalisation, là maintenant on comprend mieux, hein, cette partie-là, ces cellules qui expriment, puis qui arrêtent, expriment, expriment, arrêtent, etc. Et puis ces cellules vont rencontrer ici un front de détermination. Les voies de signalisation, en grande partie, c'est dû à la voie Notch, à la voie FGF, et en particulier à FGF8, qui, comme on va le voir, FGF8 est un des produits majeurs qui est produit dans cette source de cytokines. Voilà. Alors, souvenez-vous de cette publication très compliquée de Cook et Zeman qui avaient modélisé ça dans les années 70, où eux avaient compris que c'était un oscillateur cellulaire qui oscillait comme une OLA, en fait. Mais ils pensaient que le front de détermination était quelque chose qui venait de l'antérieur vers le postérieur avec la maturation de l'embryon. C'est-à-dire, puisque l'embryon se développe de l'antérieur vers le postérieur, eh bien c'est quelque chose, une sorte de front de maturation qui fait que ça descend. Or, en fait, ça descend bien, mais la source est postérieure, elle n'est pas antérieure. Et ça, c'est ce qu'ont encore découvert le laboratoire d'Olivier Pourquier. Et cette source, c'est en grande partie... une molécule qui s'appelle FGF8, donc cette molécule ici, qui, vous voyez, en particulier active le gène S7, qui est aussi activé par la voie Notch. Et la façon dont ça a été étudié, c'est en faisant donc des hybridations in situ et en variant les temps de révélation. Alors, pour ceux d'entre vous qui... on fait le plaisir de suivre le cours les années précédentes. J'avais déjà expliqué en fait ce que c'était que cette technique. C'est hyper simple. Les ARN, c'est de l'acide nucléique simple brun. Hein, on l'a vu maintenant. Si vous connaissez la séquence d'un ARN, on connaît les séquences de tous les ARN maintenant, mais il suffit de fabriquer une petite sonde ADN complémentaire qui est marquée par de la couleur, par une fluorescence, peu importe, une enzyme qui va révéler quelque chose, ça c'est vraiment accessoire. Eh bien, on balance cette petite sonde qui va aller chercher l'ARN, qui va s'hybrider, et puis on va pouvoir révéler où se trouve l'ARN. Alors, ce que vous voyez sur la droite, là, c'est la partie basse de l'embryon de poulet, avec les semites ici, et vous voyez cette grande quantité de FGF8. Quand on voit cette image, on se dit, mais en fait, il n'y a pas de source, il n'y a pas de gradient, c'est très fort partout. Et ce qu'ont fait les auteurs, c'est simplement d'arrêter la réaction de révélation de la couleur, dans ce cas particulier, à des temps différents. Et vous voyez que quand ils arrêtent la révélation très tôt, mais on voit très bien que dans la partie postérieure, il y en a beaucoup plus que dans la partie antérieure. Ce qui veut dire que cet ARN est produit dans la partie postérieure. N'est-ce pas ? On ne le voit pas ici parce que là, on est à saturation. C'est comme avec un appareil photo, vous saturez la couleur, on a l'impression que tout est égal. Mais tout n'est pas égal, on voit qu'il y en a plus dans la partie postérieure. D'où la possibilité, l'idée que cet ARN pourrait créer un gradient et que par conséquent, quand l'embryon descend, il descend, ben une limite quelque part ici pourrait descendre avec. Alors pour confirmer ça, ces auteurs ont fait une expérience qui consiste à faire des hybridations in situ, la même, mais au lieu d'utiliser une sonde pour un ARN exonique, on utilise une sonde intronique. Alors, petite parenthèse pour que vous compreniez très rapidement ce qu'on veut dire par là. La plupart d'entre vous se souviennent certainement que nos gènes, vous voyez ici un exemple, l'ADN, le démarrage ici, le promoteur, la fin ici. Et vous voyez que nos gènes, dans l'immense majorité, les gènes qui font des ARN messagers, donc qui sont responsables de faire des protéines par la suite, dans l'immense majorité, sont épicés, avec deux S, donc subissent un mécanisme d'épissage. C'est-à-dire que l'ARN qui est produit, l'ARN qui est lu sur l'ADN, n'est pas exactement l'ARN qui est exporté dans le noyau pour faire une protéine. Cet ARN, il est modifié, et il y a des morceaux qui partent. On appelle ça des introns. Donc vous voyez qu'il y a des morceaux qui restent, on appelle ça des exons. Et puis ces morceaux-là, ben ils sont recombinés, il y a toute une machinerie qui enlève ces morceaux, ce qui fait que l'ARN ici qui est exporté dans le cytoplasme pour faire des protéines, eh bien il est fait de ce morceau-là, ce morceau-là, ce morceau-là. Alors pourquoi ça existe, peu importe, on ne va pas rentrer dans un cours de biologie moléculaire, mais c'est comme ça, c'est la norme, il y a très peu d'exceptions en fait. Les gènes généralement sont splicés chez les eucaryotes, pas chez les bactéries bien sûr, chez les eucaryotes. Alors, évidemment que la plupart des sondes qu'on utilise pour faire l'expérience que je vous ai montrée tout à l'heure sont des sondes, comme vous voyez ici, qui sont sur une partie de l'ARN, qui généralement sont des sondes exoniques, c'est-à-dire qu'on détecte toute la quantité d'ARN qu'on trouve dans une cellule, d'ARN messager qu'on trouve dans une cellule. La cellule, le noyau va exporter des ARN, exporter, les ARN vont s'accumuler dans le cytoplasme, faire des protéines, ben c'est ça qu'on voit. Sauf si vous utilisez une sonde qui est ici, qui elle est sur une région intronique, c'est-à-dire qui dès que l'ARN sort dans le cytoplasme, cette séquence n'est plus là, donc vous ne voyez plus rien. Donc vous ne voyez que les cellules qui produisent cet ARN et non pas les cellules qui contiennent l'ARN. Parce qu'il y a une grande différence. L'ARN, il a une demi-vie. Ça peut aller de la minute à l'heure chez nous, en ARN. Donc vous avez beaucoup de cellules dont vous voyez l'ARN, mais ce ne sont pas les cellules qui l'ont produit. C'est les cellules qui le contiennent puis qui vont le perdre tranquillement. Et donc, quand ces auteurs utilisent une sonde exonique, eh bien, vous voyez, c'est ça. Vous voyez ici, au même stade, vous remplissez toutes ces cellules. Quand on utilise une sonde intronique, eh bien, vous voyez qu'il n'y en a que dans cette partie-là. D'accord ? Ça veut dire qu'il n'y a que ces cellules les plus postérieures qui produisent cet ARN, qui fabriquent cet ARN. Ensuite, les cellules-là vont remonter. Ce n'est pas que les cellules vont remonter, c'est que l'embryon va descendre, donc les cellules vont rester sur place, et puis les cellules dans cette partie vont se diviser, descendre. Les cellules qui vont rester sur place vont avoir une quantité d'ARN, mais ne vont plus en produire. Donc l'ARN va rentrer en demi-vie, va se dégrader progressivement, et ça va créer un gradient avec beaucoup plus d'ARN à la base. Ici, regardez ce point bleu. Ce point bleu, c'est la même cellule à trois stades différents. D'accord ? Donc, en bleu ici, vous avez la source. Le système descend, parce que ces cellules-là sont en mitose, donc ça va descendre. Cette cellule, elle reste à la même place, elle est là, maintenant elle est là. Oui, là, elle a beaucoup d'ARN, mais elle n'en produit plus. Donc ici, elle en a déjà moins, parce que la moitié sera dégradée. Et puis là, il y en a encore moins, parce que pratiquement tout sera dégradé. Donc, vous formez un gradient. Et l'idée, c'est que dans ce gradient, on arrive à une quantité qui, quand cette quantité rencontre l'oscillateur, va conduire à une catastrophe et à la formation de ces frontières semitiques qui sont vraiment... C'est quelque chose de très traumatique pour la cellule, parce qu'on passe de cellules mésodermiques, classiques, petites rondes, comme ça, à des cellules massives, épithéliales, qui vont se mettre ensemble, qui vont former un semite. Hein? Et bien, cette information, il semble qu'elle est donnée à l'oscillateur, toutes les 5 heures chez nous, on oscille comme ça, et toutes les 5 heures, on va rencontrer une concentration de protéines qui est fixée par la dégradation de l'ARN, et ces deux choses ensemble vont fixer la frontière. C'est comme ça que ça semble se passer. Donc on le voit là, de nouveau, ce carré, qui sont les mêmes cellules, hein, à 3 temps différents. Vous voyez ici que ça descend. Ici, il y a plus d'ARN qu'il y en a ici, parce qu'entre ces 3 temps, l'ARN s'est un peu dégradé, et ces cellules n'en produisent pas, puisque seules ces cellules-là en produisent. D'accord ? Et puis vous voyez qu'ici, bientôt, ce front de concentration, là, il descend, bientôt, il va rencontrer ce carré de cellules, et là, il y aura une frontière. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, un dernier mot sur cette horloge, sur le mécanisme de cette horloge, en fait. Parce que quand on dit qu'il y a une catastrophe, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui fait que soudainement ces cellules vont se transformer dans ce segment particulier? Et là encore, c'est en grande partie à cause de la voie Notch. Donc là, on a un résumé, hein, où vous avez ici l'oscillateur sur la gauche, sur la droite, le front de détermination qui descend. Donc ici, on a exactement la concentration nécessaire de FGF8 pour produire cette catastrophe. Et puis à un moment, ces deux vont se rencontrer. L'oscillateur va arriver juste au niveau où il y a cette concentration et ça va former un nouveau segment. Ce segment, il est formé, là encore, par l'activation de gènes qui vont répondre à la fois à la période de l'oscillateur et la concentration du front de détermination. Et puis parmi ces gènes, il y en a un, je vous montre, c'est le seul que je vais vous montrer, simplement pour mentionner une petite chose assez intéressante. C'est un gène qui s'appelle MESP2, mais peu importe, hein, c'est encore un facteur de transcription. Et vous voyez que ce gène va être activé juste dans cette fenêtre ici, cette nouvelle fenêtre là, de façon poivre et sel, de façon stochastique. Des cellules vont être positives, des cellules vont être négatives. Et puis ces cellules vont se trier, vont s'auto-trier. Toutes les cellules qui sont positives vont aller vers le haut, et toutes les cellules qui sont négatives vont aller vers le bas. Vous voyez, on le voit ici, c'est trois stades différents, hein. De nouveau, les trois stades de l'oscillateur. Ici, poivre et sel, là on commence à les trier, là on a toutes positives, toutes négatives. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça donne au semite une polarité antérieure-postérieure. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, nos vertèbres, une vertèbre ne dérive pas d'un semite, mais une vertèbre dérive de la partie postérieure d'un semite et de la partie antérieure du semite d'en dessous. Pourquoi? C'est une autre histoire, mais on le voit ici, une vertèbre, en fait, elle est faite d'une partie rouge et d'une partie jaune. D'accord? Donc c'est ici qu'on va avoir une vertèbre, ici qu'on va avoir une vertèbre. C'est un système qui est vraiment, vraiment très, très curieux, mais... Voilà. Alors, une des questions clés, une fois que le mécanisme de cette horloge est relativement bien compris, hein, il y a encore des tas de questions à résoudre, bien entendu, mais on voit en gros un peu comment ça fonctionne. Une des questions clés, bien sûr, c'est comment contrôler le nombre. Comment est-il possible qu'au sein d'une espèce, d'abord, on ait tous le même nombre de vertèbres, et puis que des vertèbres, des espèces et des nombres de vertèbres différents. Et en fait, ce nombre, il va dépendre du rapport entre le taux de formation des sommites et l'élongation de l'axe. Si par exemple vous arrêtez de diviser ces cellules, donc vous n'alimentez plus le mésoderme présommitique, ben le système va s'arrêter. Si au contraire vous avez des divisions cellulaires très très soutenues et que vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez vers le bas, ben vous allez continuer, 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 continuer. Maintenant vous avez aussi bien entendu le taux de formation des sommites. Si vous oscillez, si la période est très rapide, vous allez faire des sommites plus petits, plus nombreuses, etc., etc. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Et vous voyez ici un de ces paramètres qui est le nombre de générations cellulaires, donc le nombre de divisions cellulaires dans la partie postérieure. Et vous voyez que chez les serpents, par exemple, où on peut arriver jusqu'à à peu près entre 300 et 350 vertèbres, alors, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'elles sont toutes différentes les unes des autres? La réponse est non, évidemment. Puis on verra plus tard pourquoi. Parce que les serpents, ils n'ont pas 350 gènes pour déterminer leurs vertèbres. Ils ont le même nombre que nous. Mais vous voyez qu'on arrive à 21,5, alors que chez le poisson zèbre, où on n'a que 32 sommites, il n'y a que 2,8 nombre de générations cellulaires. Donc ça s'arrête très vite, ou ça peut s'arrêter beaucoup plus lentement. Et là, j'aimerais ouvrir une toute petite parenthèse, une de plus, pour dire que on rentre ici dans un champ de réflexion qui est très riche historiquement parlant, c'est-à-dire de modifier des morphologies en changeant le temps des mécanismes. On garde les mêmes mécanismes, on garde tout pareil, mais on change légèrement les temps de ces mécanismes. Et c'est un domaine qui est extrêmement riche, et en particulier un ouvrage alors, que je peux vraiment vous recommander, qui a été traduit en français d'ailleurs, de Stephen Jay Gould, qui a écrit ce livre « Ontogénie et phylogénie », dans lequel, en fait, il fait beaucoup allusion à Gavin de Beer, qui est quelqu'un qui avait classé toutes les différences qu'on peut observer dans les temps du développement. On peut par exemple avoir des accélérations de développement ou des retards de développement. Vous en connaissez certainement un qui s'appelle la néoténie. C'est chez ces animaux extraordinaires qu'on appelle des axolotes, qui sont des amphibiens et qui se reproduisent à l'état larvaire. Donc c'est des animaux qui ne passent jamais à l'état adulte, en fait, mais qui ont une vie larvaire, ils se reproduisent à l'état larvaire. Et puis cette néoténie aussi, il y a toute cette hypothèse de notre propre néoténie, donc ce retard extrême qu'on a dans notre développement pour permettre la croissance de notre cerveau, comparé aux grands singes qui naissent relativement plus rapidement. Et donc Stephen Jay Gould a classifié toutes ces différents types de retard ou d'accélération. En fait, peu importe vraiment, je voulais simplement le mentionner au cas où vous souhaitez lire un ouvrage qui est relativement accessible et qui est vraiment intéressant dans ce domaine. Alors, comment fixer la période de cet oscillateur? C'est pour répondre à cette question, et beaucoup de laboratoires très récemment en fait ont pu commencer à répondre à cette question, car il est devenu possible récemment de voir, d'observer ces oscillations in vitro. On n'est plus dans un système d'embryon compliqué, on peut prendre des cellules souches, ES, on peut différencier ces cellules en cellules de type présommitique, mésoderme présommitique, avec un mélange de produits, et puis ces cellules vont se mettre à osciller dans un pétri. Alors si vous avez un tapis de cellules, eh bien elles vont osciller de façon centro-extérieure, un peu comme quand vous laissez tomber un caillou dans l'eau avec des vagues qui vont partir et puis qui vont exactement comme une ola, mais une ola dans un pétri, ces cellules vont se mettre à osciller. À partir de là, vous pouvez regarder, vous pouvez filmer et vous pouvez regarder la période et commencer à agir sur ces cellules. Il y a toute une série de publications très intéressantes qui ont été publiées. Je vous en montre une assez simple, et compliquée, mais qu'on peut décortiquer de façon simple. C'est un travail d'un groupe à Barcelone qui s'appelle le groupe de Miki Ebisuya. Et ce qui a été fait, c'est relativement simple. Vous voyez ici une culture de cellules qui oscille. Et la façon dont ces auteurs mesurent la période d'oscillation, c'est simplement d'introduire dans ces cellules un promoteur d'un gène qui oscille, dans ce cas particulier le gène S7, toujours le même, et derrière ce promoteur, on met un gène qui code pour une enzyme qui s'appelle la luciférase, qui est en fait... qui produit de la bioluminescence, c'est isolé des lucioles, et ça permet en fait d'avoir une mesure très rapide, très précise, très sensible. Donc on a ce transgène qui va se mettre à osciller. On peut prendre un microscope et faire une section optique que vous voyez là, AB, et puis, en dessous de cette section optique qui passe à travers une cellule, là, ben la cellule va être positive, négative, par la luciférase, positive, négative, et c'est ce que vous voyez sur la droite, là. Positive, négative, positive, négative, positive, négative, positive, négative. D'accord ? Donc, c'est une façon extrêmement précise de mesurer la période de votre oscillation. Vous avez vos cellules en culture, un microscope dessus, qui détecte la bioluminescence, une section optique artificielle, et puis chaque fois que vous avez de la luminescence, ben vous l'enregistrez, puis vous avez cet enregistrement. Donc vous avez le temps sur la gauche, ici, et puis l'espace, peu importe, mais le point important, c'est le temps. Alors vous pouvez faire ça avec des cellules de souris, et vous pouvez faire ça avec des cellules humaines, donc des cellules souches humaines qui sont différenciées en cellules présomitiques. Et quand vous regardez la période que vous obtenez en faisant ça, eh bien pour la souris, vous avez cette oscillation, cette période qui, vous le voyez, est à peu près de 100, un peu plus de 100 minutes, de 150 minutes hein, chez la souris, donc en gros 2 heures, si vous voulez. Et puis si vous le faites avec des cellules humaines, bon, vous avez cette oscillation qui va arriver à une période d'à peu près 5 heures. Donc ça répète exactement la période d'oscillation qu'on observe chez les embryons. D'accord ? Donc c'est un système qui est robuste et qui vous permet vraiment d'observer cette période dans un pétri. À partir de là, on peut commencer à imaginer faire des expériences. Vous voyez que la mesure est très précise, hein, puisque ici vous avez 122 minutes, plus ou moins 2 minutes chez la souris, 322 minutes, plus ou moins 6 minutes. Donc vous voyez, quand vous prenez des cellules différentes et que vous regardez la période d'oscillation, c'est vraiment hyper précis, très robuste. La première question que ces auteurs se sont posées, c'est finalement, est-ce que Notch est nécessaire ? Est-ce qu'il est nécessaire que ces cellules se touchent pour osciller, ou bien est-ce qu'il est nécessaire que ces cellules se touchent pour coordonner leur oscillation ? C'est deux questions qui sont différentes. Hein ? Donc là, c'est facile. On peut simplement mettre ces cellules à une très basse concentration, donc les cellules ne se touchent pas, et puis on peut regarder si ça affecte leur période d'oscillation. Et puis la deuxième chose qu'on peut faire, c'est de mettre dedans un inhibiteur de Notch, où les cellules ne peuvent plus se parler, donc cette fois les cellules sont collés mais ne peuvent plus se parler. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que la voie Notch est nécessaire pour l'oscillateur ou bien est-ce qu'elle est là juste pour coordonner ? Et en fait, les résultats, donc vous voyez ici, ces cellules isolées, les résultats sont que finalement, la voie Notch n'a pas un effet drastique. Donc lorsque vous inhibez Notch, vos cellules continuent à osciller. Et souvenez-vous, dans le schéma que je vous montrais tout à l'heure, je vous ai dit que la voie FGF entraînait S7. Il n'y a pas que la voie Notch. Donc il y a ce qu'on appelle des inputs multiples pour ce gène, et quand vous inhibez la voie Notch, ce gène continue à osciller. En fait. Et puis on voit aussi que les cellules de mésoderme présomitique isolées continuent à osciller avec la bonne période. bien que le bruit soit un peu supérieur pour les cellules humaines, mais peu importe. Donc, il s'agit bien d'un oscillateur cellulaire intrinsèque qui n'a pas besoin des cellules voisines pour fonctionner. Et donc, quelle est la raison de cette différence de période, finalement ? Comment une cellule humaine peut sentir, en quelque sorte, savoir qu'elle doit osciller toutes les 5 heures, alors que la même cellule qui provient de la même source chez la souris ne va le faire que toutes les 2 heures. Une possibilité, c'est que les gènes qui oscillent ont des différences. Par exemple, le gène S7, ce gène sur lequel on a beaucoup travaillé, imaginez que le promoteur, par exemple, la séquence du promoteur soit un peu différente, de telle sorte que la réponse du gène aux informations actives, n'actives pas, actives, n'actives pas, soit par exemple délayée, il y a un délai, parce qu'il y aurait moins d'affinité pour lier des protéines, etc. Donc pour savoir ça, ces auteurs vont faire l'expérience la plus simple finalement, mais la plus élégante, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle un swap, donc d'échanger, de mettre ce gène humain dans des cellules de souris et le gène de souris dans des cellules humaines. Et la question, c'est si je mets le gène de souris dans les cellules humaines, est-ce qu'on va osciller 2 heures ou 5 heures ? Si je mets le gène humain dans les souris, est-ce qu'on va osciller 5 heures ou 2 heures ? D'accord ? Alors pour faire ça, c'est assez compliqué, c'est beaucoup plus simple maintenant avec le système CRISPR, et je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui se fait, en fait, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une recombinaison homologue. Donc on va produire, si vous voulez, une lignée de cellules dans laquelle les deux copies du gène humain remplaceront les deux copies du gène de la souris. Donc les deux copies du gène de la souris ne seront plus là. Hein, on n'a que les deux gènes humains. Et puis vice-versa, on va faire une autre lignée, cette fois de souris, dans laquelle les deux gènes humains auront remplacé les deux gènes de souris. D'accord ? Luciférase, on regarde l'oscillation, toujours le même outil analytique, et on voit ici que la période d'oscillation de S7 humain s'adapte parfaitement à celle de la souris dans les cellules de la souris. Donc ce que vous voyez là, c'est des cellules de souris, n'est-ce pas ? Des cellules de mésodermes présomitiques de souris. Et en bleu, vous avez WT, wild type, type sauvage, c'est le contrôle. Le contrôle, l'oscillation normale du gène de souris dans la cellule de souris. Donc ce que vous voyez là, c'est la période de souris. Vous voyez, c'est à peu près avant 200 minutes, là, donc on est toujours dans les 100 et quelques minutes, c'est ça. D'accord ? Cette oscillation. Et puis, en rouge, ici, vous avez la cellule de souris avec cette fois les deux copies du gène humain. Et vous voyez que la période est rigoureusement identique. Il y a une petite différence, ça commence à se déphaser vers la fin, ici. On ne sait pas exactement pourquoi, ce n'est pas vraiment discuté. Si on continue les oscillations, ça a tendance à se déphaser un peu, mais vous voyez que la période est la même. D'accord ? Donc, il semble bien que ce qui fixe la période n'est pas lié à la structure des gènes qui oscillent. C'est lié à l'environnement cellulaire. C'est quelque chose dans la cellule qui fixe la période de cette horloge. Il y a encore une possibilité que ces auteurs investiguent, c'est de dire peut-être qu'il y a un de ces fameuses enhancers, vous vous souvenez sans doute, ces séquences de régulation qui contrôlent l'activation de ces gènes. Peut-être qu'elle est située en dehors de ce qu'on a enlevé dans la souris. Peut-être c'est toujours là, quelque part sur le chromosome. Et donc l'idée, c'est de faire différemment. On va prendre les cellules de souris, on va inactiver les deux gènes de la souris, les deux gènes S7, on les déguille, ils ne fonctionnent plus. Et on va remettre dedans des gènes humains, mais pas au même endroit, sur un autre chromosome, quelque part dans un territoire totalement inattendu. Un transgène classique. D'accord ? Donc là, il n'y a plus de possibilité de contrôler ce gène humain par quelque chose qui serait resté chez la souris, c'est ailleurs. Alors, cette expérience que vous voyez là, en noir, ici, vous voyez ce qui se passe quand le gène S7 est inactivé sur les deux copies. Ben, ça oscille plus, évidemment. Ça oscille plus. D'accord ? Par contre, ici, vous voyez en bleu et en rouge ce qui se passe quand vous remettez la souris, le gène de souris dans l'humain, et vous remettez le gène humain dans la souris. En fait, c'est pareil. Les périodes sont toujours adaptées au type cellulaire. D'accord ? Donc, quoi que vous fassiez, quelle que soit l'expérience, le résultat est toujours relativement comparable. Une cellule de souris oscillera toujours avec 2 heures, une cellule humaine oscillera toujours avec une période de 5 heures, quoi que vous y mettiez à l'intérieur. Alors, pour essayer de comprendre pourquoi, en fait, ces deux cellules ont des périodes différentes, les auteurs vont considérer un certain nombre de paramètres qui sont liés, cette fois, à l'oscillateur. Qu'est-ce qui peut faire que l'oscillateur soit plus rapide ou plus lent ? Ben, par exemple, il y a la vitesse de production de l'ARN, la vitesse de dégradation de l'ARN, etc. Donc, ces auteurs vont lister ici toute une série de critères. Vous voyez, ça paraît compliqué. En fait, c'est très simple. Vous avez ici le gène S7. Ce gène, il fabrique un ARN. Cet ARN, il fabrique une protéine. Et cette protéine, souvenez-vous, elle a un effet négatif sur le gène S7. Hein, ça, c'est vraiment la base de l'oscillateur. Vous vous souvenez des gènes qui produisent des protéines. Donc le gène produit protéines. Les protéines sont des répresseurs, donc elles vont réprimer le gène qui descend. Si le gène descend, il n'y a plus de protéines qui peut le réprimer, donc le gène remonte, etc. Hein, c'est comme ça que ça... Bon. Alors on pourrait se dire, ben voilà, ici, on a une série de critères qui sont des délais et puis des critères qui sont des dégradations. Par exemple, ici, si vous avez une dégradation très rapide de l'ARN, ça va changer votre oscillation, puisque vous aurez moins de protéines, etc. Si vous avez une protéine qui est très très stable, ben ça va changer votre période d'oscillation, parce que vous allez avoir plus de protéines pendant plus longtemps. Donc à chaque étape de ce petit cycle, en fait, on peut imaginer qu'en changeant quelque chose, ça change la période. Et donc, ils vont essayer de mesurer ces critères. Alors, ça paraît compliqué, mais là encore, ça ne l'est pas tellement, parce qu'il y a un système qui est développé depuis, je dirais, presque 25-30 ans maintenant, dans le domaine, qui permet de varier avec une grande précision le déclenchement et l'arrêt de l'expression d'un gène. Parce que, imaginez que vous vouliez mesurer la dégradation d'un ARN, la demi-vie d'un ARN. Demi-vie, c'est donc le temps que ça prend pour avoir la moitié de la quantité. Hein. Bon, mais qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut un système dans lequel vous produisez un ARN et il vous faut quelque chose qui vous permette d'arrêter la production de façon instantanée, de l'extérieur. Comme ça, ensuite, vous pouvez voir, mesurer l'ARN pour voir quel temps il met pour se dégrader. Ça paraît simple, mais c'est très compliqué, un système de ce genre. Et ce système, c'est ce qu'on appelle le TET-OFF, TET-ON. C'est un système qui est basé sur la tétracycline, en fait, sur un antibiotique. Dans le commerce, je crois qu'on appelle ça la vibramycine, en fait. C'est une cycline, c'est un dérivé des cyclines. Et le système, il fonctionne de la façon suivante. Vous avez un transactivateur, une protéine qui active l'expression des gènes, qui active la transcription. Et elle active la transcription en reconnaissant une séquence très particulière. Donc, si vous avez un gène, vous avez un gène X que vous voulez étudier, vous mettez cette séquence devant le promoteur, vous mettez ce transactivateur dans votre cellule, et ça va vraiment déclencher la transcription. D'accord ? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais, si vous rajoutez cet antibiotique qu'on appelle la doxycycline, donc qui est en fait de la tétracycline en gros, si vous rajoutez cet antibiotique, il va se fixer sur le transactivateur et le transactivateur ne va plus pouvoir lier cette séquence. Donc vous arrêtez immédiatement la transcription du gène. D'accord ? Donc imaginez que vous avez un système in vitro, comme celui que je vous ai montré, avec ces cellules sous le microscope, etc., eh ben, vous avez transcription du gène, il suffit que vous pipetiez un peu d'oxycycline, et ça s'arrête. Vous enlevez la doxycycline, ça repart. D'accord ? Donc c'est un système qui permet vraiment de bien contrôler l'expression de ces gènes. Alors, ce que ces auteurs vont faire, ben c'est toujours pareil, ils vont prendre le gène S7 avec une fusion d'une ce qu'on appelle une nanolux, une luciférase qui est très brillante, qui permet vraiment de bien mesurer, et puis ils mettent la petite séquence ici, en amont, donc ils peuvent exprimer cet ARN, ils expriment à fond cet ARN, puis ils arrêtent l'expression. Et ils regardent combien de temps ça prend pour diminuer, de façon à mesurer la vitesse de dégradation du gène humain, S7, et la vitesse de dégradation du gène souris, pour voir s'il y a une différence. Et ça, c'est le résultat qu'ils obtiennent. Et vous voyez que c'est assez intéressant. Cette courbe-là, en bleu, c'est quand vous mettez le gène de souris dans des cellules de souris. Donc, vous mettez le gène de souris et de la luciférase dans les cellules de souris, vous arrêtez, vous regardez la dégradation, et c'est ce que vous voyez. Tac, 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 ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et vous voyez que la demi-vie, elle est à peu près là. Donc, il va falloir, en gros, 50 minutes. Alors, pourquoi ici, c'est indiqué moins ? Parce que, vous voyez, 20 minutes, parce que ce que vous regardez, c'est en fait la luciférase. C'est la protéine qui est produite par l'ARN. Mais si vous regardez l'ARN lui-même, il est déglingué avant, parce qu'il reste toujours un peu de luciférase, d'accord ? Voilà. Maintenant, quand vous mettez un triangle ou un rond, c'est-à-dire soit le gène de la souris, soit le gène humain, dans des cellules de souris, c'est la même vitesse de dégradation. D'accord ? Donc, en fait, ce qui se groupe ensemble, c'est les cellules, encore une fois. Ce n'est pas les gènes. D'accord ? Vous voyez à droite, ici, ce qui se passe quand vous mettez chez l'humain, une cellule humaine. Donc, la vitesse de dégradation de ces ARN dépend de la cellule. Encore une fois, elle dépend de la cellule. Donc, il y a quelque chose dans ces cellules qui font qu'elles dégradent les ARN plus rapidement si c'est une cellule de souris que si c'est une cellule humaine. Donc on voit ici, demi-vie chez la souris, 20 minutes en gros, demi-vie chez l'humain, 40 minutes. Donc la vitesse de dégradation dépend uniquement du milieu cellulaire et non de l'origine du gène. Alors là, vous allez me dire, ça ne doit pas concerner que l'horloge, ça doit concerner tous les ARN en fait, qu'on trouve dans cette cellule. Et effectivement, la plupart des ARN seront dégradés plus rapidement dans une cellule de souris qu'ils ne le sont dans une cellule humaine. Un autre critère qui est regardé, c'est la vitesse d'épissage. Souvenez-vous, je vous parlais de l'épissage tout à l'heure. Donc l'épissage, c'est ce mécanisme qui va enlever des morceaux de l'ARN pour que l'ARN soit mature, pour qu'il puisse travailler. Si vous faites ça très rapidement, vous allez très rapidement avoir plus d'ARN pour faire des protéines. Si ça prend des heures, bien vous allez avoir moins d'ARN pour faire des protéines. Donc vous pouvez aussi réguler la période de l'horloge avec le temps de l'épissage. Alors, pour mesurer le temps d'épissage, écoutez, c'est très simple. Vous avez votre gène, il suffit de fabriquer un gène qui a des introns, donc un gène qui ressemble au vrai gène, et puis vous pouvez aussi fabriquer un gène plus petit dans lequel vous avez déjà enlevé les introns, donc il n'y a plus besoin de l'épicer. C'est vraiment hyper simple, ce qu'on appelle un ADN complémentaire, c'est fait en quelques heures. Donc vous mettez ensemble ces deux configurations, et la question que vous posez, c'est combien de temps ça prend pour enlever ces morceaux dont on ne veut pas, chez la souris et chez l'humain. Et là, vous voyez que quand vous n'avez pas d'intron, donc WO without, sans intron, donc le gène court, Eh bien, vous avez ici, sans un tronc, avec un tronc. Donc, sans un tronc, vous partez tout de suite, d'accord? Et puis, si vous avez des introns, il va falloir les enlever, donc ça va prendre un peu de temps, et vous avez ici le délai, hein, dans des cellules de souris. D'accord? Ce délai, vous pouvez le calculer, il est de 13 minutes dans les cellules de souris. Alors, c'est assez intéressant, hein, c'est un travail qui n'avait jamais vraiment été regardé, en fait. Ça veut dire que ça prend quand même pas mal de temps, finalement, pour qu'un ARN qui est produit dans le noyau soit polissé, bien, etc., pour que finalement on puisse l'exporter dans le cytoplasme, puis lui dire maintenant tu fais ta protéine. 13 minutes, hein, c'est quand même un temps assez conséquent. Eh bien, vous voyez que si vous faites ça dans une cellule humaine, vous allez comparer les deux encore, vous allez avoir 37 minutes de délai. Autrement dit, ça prend deux fois plus de temps dans une cellule humaine d'épicer un ARN que ce n'est le cas dans une cellule de souris. Tout est plus lent. Hein, tout est plus lent dans les cellules humaines que dans les cellules de souris. Alors, je vais vous faire court, ces auteurs vont regarder encore d'autres paramètres. Et en fait, ils vont regarder la vitesse de répression. Une fois que vous avez cette protéine, combien de temps ça prend pour réprimer ce gène? Pour ça, c'est très simple, hein, vous faites le gène avec de la luciférase, puis vous mettez la protéine, puis vous regardez, bon. Et bien là, il n'y a pas de différence. Alors, vous allez me dire, c'est probablement normal, puisque ça n'implique pas de métabolisme, en fait. C'est une protéine qui se balade et puis qui va aller chercher le promoteur. Hein, donc on voit déjà où on va avec ça. Hein. Là, il semble qu'il n'y ait pas de différence. Pareil pour les délais de répression, pour le délai de répression et puis pour la vitesse de transcription. Là, il semble qu'il n'y ait pas de différence. Vous savez que la vitesse de transcription, vous avez une polymérase qui arrive sur votre ADN pour faire un ARN, ben on va lire à peu près une cinquantaine de bases par seconde. Là, ça va assez vite quand même. Un ARN pour faire une protéine, on va lire aussi une cinquantaine de bases par seconde. Ça fait qu'on va rajouter à peu près une petite vingtaine d'acides aminés par minute, par seconde. Par seconde, ça va quand même assez vite. Hein. Imaginez que pendant qu'on parle, là, chaque seconde, vous êtes en train de fabriquer des protéines. Chaque seconde, vous rajoutez 20 acides aminés pour faire votre protéine. Hein. Donc, une protéine standard, ça va vous prendre une minute pour la faire. Et bien là, les temps sont conservés. Là, il semble qu'il n'y ait pas de grande différence entre les humains et la souris. Alors, en considérant tous ces paramètres, eh bien, ils arrivent à la conclusion que finalement, certains de ces paramètres varient, certains de ces paramètres ne varient pas. Ils vont mettre ça dans des modèles mathématiques, ils vont faire tourner un modèle, et puis ils vont arriver avec un modèle qui est relativement satisfaisant. Vous avez ici, ils peuvent reproduire l'oscillation de la souris en bleu, et puis l'oscillation humaine en rouge, donc qui est beaucoup plus longue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce modèle? Ça veut dire que vous pouvez essayer de varier les paramètres sur ce modèle mathématique, puis vous allez obtenir un résultat que vous pouvez vérifier dans la vraie vie, puisque vous avez la possibilité sur le microscope de varier. Donc c'est un modèle qui semble-t-il, est relativement satisfaisant. Alors c'est intéressant de voir leur conclusion, la façon dont ils écrivent la conclusion, c'est toujours intéressant. Vous voyez qu'ils écrivent « sufficient to quantitatively account ». Moi, j'ai traduit ça par un modèle chez les humains sont suffisantes pour expliquer quantitativement des périodes d'oscillation plus longues. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est un modèle, ils ne disent pas, c'est comme ça que ça marche, hein. Ils ne disent pas, ça c'est le modèle, c'est comme ça que ça marche dans les cellules. Ils disent, c'est un modèle qui est suffisant pour expliquer ce qu'on voit dans les cellules. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est très honnête comme conclusion. On ne dit pas, voilà, on a travaillé, maintenant on vous explique comment ça marche. Non, non. On a un modèle et il est suffisant pour expliquer ce qu'on voit. Hein, on ne peut pas vraiment en dire plus. Maintenant, attaquez ce modèle, prouvez-nous qu'on a tort et je pense que les gens ne vont, vont pas s'en priver. Le dernier mot que j'aimerais dire sur cette horloge de segmentation, c'est cette différence entre la souris et l'humain. En fait, c'est une différence que l'on connaît depuis de nombreuses années, finalement, ça répond à une loi qui s'appelle la loi de Kleiber. C'était proposé par Max Kleiber. Et cette loi dit, vous voyez déjà en 1930, cette loi dit que dans l'immense majorité des cas, chez les amniotes, donc chez les mammifères, les oiseaux, tous les animaux, ce qu'on appelle en gros les vertébrés supérieurs à tort, mais les vertébrés supérieurs, dans l'immense majorité des amniotes, le métabolisme est ajusté, donc le métabolisme, la façon dont on produit, on consomme notre énergie, hein, est ajusté proportionnel à la masse corporelle à la puissance 3 quarts. La masse corporelle à la puissance 3 quarts. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation linéaire. Hein, ici. Par conséquent, vous pouvez faire le calcul, un mammifère qui est 100 fois plus lourd qu'un autre aura un métabolisme consommant 32 fois plus d'énergie que l'autre. Donc en fait, plus vous êtes lourd, plus vous êtes grand, plus vous êtes gros, dans les espèces amniotes, plus votre métabolisme est ralenti, comparativement aux animaux qui ont un poids différent. Comparativement. D'accord ? Donc on voit que là, on rentre, humain-souris, on rentre dans un ratio. Hein. Le poids d'une souris, c'est 20 grammes, à peu près. Une belle souris, c'est 20 grammes. Et puis ici, j'ai mis poids d'un être humain, Homo sapiens, 80 kilos, c'est 4000 fois. Vous pouvez faire le calcul. Mais donc, il semble bien que l'horloge de segmentation, en fait, est. La période de l'horloge de segmentation représente simplement des différences fondamentales qu'on a dans notre métabolisme, qui est fonction de notre taille, de la façon dont on métabolise l'énergie. Donc il est à prévoir que si on allait regarder chez des animaux encore plus gros, des mammouths, des éléphants, eh bien, on ait une période de cette horloge de segmentation qui sont encore un petit peu rallongées. Alors ça, c'était vérifié. Je ne vais pas m'attarder sur cette étude qui est compliquée. J'ai juste mis ici, vous le trouverez en document sur Internet, si ça vous intéresse. C'était vérifié par une belle étude du laboratoire, une fois de plus, d'Olivier Pourquier, qui a calculé en fait les dépenses énergétiques par les balances redox et qui ont montré en fait qu'en modifiant les balances redox, donc en modifiant le métabolisme général, ils étaient capables de modifier la période de l'horloge de segmentation. Mais c'est vraiment une étude qui est compliquée à lire et je vais pas m'y attarder. Voilà. Dernier point que j'aimerais mentionner sur cette horloge, c'est le moment auquel cette horloge est activée. Vous vous souvenez, on en a parlé, la gastrulation, milieu de la gastrulation, la somitogenèse, donc quand il s'agit de condenser ces somites. Et si on regarde où se trouve cette période de la gastrulation, on arrive en fait à une illustration qui, ici, est sous la forme de ce qu'on appelle du sablier phyllotypique, qui représente en fait, sur l'axe horizontal, ce qu'on pourrait appeler une quantité de variation évolutive. Une quantité de variation. Et puis sur l'axe vertical, c'est le temps de développement. Le développement. Ce que ce sablier vous dit, c'est la chose suivante. Si vous regardez tous les vertébrés, eh bien vous voyez qu'à un stade très précoce, tous ces embryons sont extrêmement différents les uns des autres. Pensez à un embryon de poisson qui est pondu dans l'eau, pensez à un embryon mammifère qui est fertilisé dans les trompes de Fallope. C'est vraiment, chaque embryon est adapté à son milieu, ils sont totalement différents les uns des autres. Et puis si vous regardez chez l'adulte, bien en fait les adultes sont relativement différents aussi. Regardez un squamate, un serpent, un lézard, un gecko, une girafe, c'est vraiment fondamentalement des morphologies à l'intérieur, pas tellement différentes, mais qui sont différentes. Pourquoi c'est pas tellement différent? Parce que entre ces deux stades, au milieu ici, il y a un stade de développement qui précisément correspond à une partie de cette gastrulation, un stade auquel ces embryons ont tendance à se ressembler. Pas autant que l'avait proposé Ernst Haeckel au XIXe siècle, mais c'est des embryons qui se ressemblent. Donc il semble que l'évolution permet une grande variation, une grande adaptabilité à ce stade-là, une grande variation, une grande adaptabilité à ce stade-là, mais il y a un goulet d'étranglement dans lequel tous les vertébrés sont obligés de passer. Donc il faut vous imaginer ce système comme une sorte d'acquisition de son appartenance à ce taxon des vertébrés, où on a des embryons extrêmement différents les uns des autres, mais qui vont devoir à un moment converger vers ce rétrécissement pour pouvoir passer au travers de ce rétrécissement et ensuite réaliser les spécificités de leur espèce. Passer, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il se trouve que dans ce rétrécissement se trouve exactement cette horloge de segmentation. Et il se trouve aussi que dans ce rétrécissement se trouve un autre référentiel temporel qui est ce Oxtimer. Donc je pense que la façon dont il faut regarder cette question, c'est assez simple finalement. On a ces embryons très différents et puis ils vont converger à un moment donné vers cette gastrulation et en quelques jours, en quelques semaines, en quelques heures, selon l'espèce, ils vont soudainement former leur corps, en fait, faire l'axe antéro-postérieur et faire les sommites. Paf, 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 et ensuite, ça va rediverger et ces animaux vont pouvoir construire sur ces sommites ou sur le reste les spécificités de leurs espèces. D'accord ? Maintenant, ces sommites, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est purement itératif. C'est des morceaux de cellules qui se condensent. La sommite 18 est une copie 100% de la sommite 24. Du sommite 24. Donc il faut un système qui va identifier ces sommites. Et ce système, c'est ces gènes OX, ces gènes homéotiques, qui vont déposer des adresses génétiques chaque fois qu'un sommite va se former. Alors la raison pour laquelle il existe ce rétrécissement, c'est une raison évidemment qui n'est pas connue et qu'on ne peut pas connaître finalement. C'est une hypothèse évolutive, et comme toute hypothèse évolutive, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais une des raisons possibles, c'est que cette rencontre entre ces deux horloges, entre cette horloge et ce timer, c'est quelque chose qui est tellement compliqué d'un certain côté, mais tellement logique d'un autre, qu'on ne peut pas imaginer une autre façon de le faire. C'est extrêmement difficile d'imaginer comment on pourrait arriver au même résultat, c'est-à-dire soudainement enclencher cette horloge et identifier ces segments, en passant par un mécanisme qui soit différent. Comme chez la mouche, par exemple, qui saucissonne ou... D'où l'idée que la variabilité qui est associée à ce genre de mécanisme est très faible, et donc on a cette structure en sablier phylotypique. Alors il y a deux questions évidemment auxquelles il faut encore répondre. La première, c'est comment fonctionne ce timer? Et puis la deuxième, c'est comment ces deux référentiels temporels sont coordonnés? Là, je dois vous dire que sur la deuxième question, c'est encore très compliqué. Il y a relativement peu de choses qui sont connues. Sur le timer OX, qu'on verra la semaine prochaine, on commence un peu à comprendre comment ça pourrait fonctionner. Mais avant de m'attaquer à cela, je vais vous faire un petit rappel, alors plus léger, sur ces fameux gènes OX, ces gènes homéotiques à homéobox. Alors, simplement pour vous donner deux, trois bases pour attaquer ce mécanisme la semaine prochaine. Ces gènes, ils ont été découverts dans les années 70. Les mutations associées à ces gènes bien avant, mais ils ont été découverts par Ed Lewis en 1900, dans les années 70. Et en fait, ils ont été découverts au travers des phénotypes très forts qu'ils induisent quand ils sont mutés. C'est toujours comme ça. Simplement, ces gènes-là ont des phénotypes assez monstrueux. Je vous en montre deux exemples ici. Vous avez cette mouche en haut. Alors, peut-être pour vous, elle a l'air normale, mais les mouches, ce sont des diptères, c'est des insectes diptères, donc qui ont deux ailes, qui ont une seule paire d'ailes. N'est-ce pas? La paire d'ailes, les insectes, si vous voulez, ont généralement trois segments thoraciques, T1, T2, T3. Sur la face ventrale, les insectes ont trois paires de pattes, c'est pour ça que les insectes ont six pattes. Si vous voyez un animal à six pattes, c'est forcément un insecte, normalement. Sur la face dorsale, les insectes ont parfois des appendices un peu différents, mais chez les diptères, sur T2, donc le segment du centre, il y a une paire d'ailes. Donc cette paire d'ailes-là est normale. Cette paire d'ailes-là est surnuméraire, c'est que le segment T2, T3, est transformé en segment T2. C'est aussi simple que ça. La mouche pense que son segment T3, c'est T2, parce que la combinaison génétique qu'on trouve à l'intérieur de T3 a été changée, elle est équivalente à T2. Donc la mouche fait une paire d'ailes. Voilà. C'est assez similaire dans ce que vous voyez là en bas. C'est une tête de mouche vue de face. Et vous voyez ici une mutation qui s'appelle antennapédia, où vous avez une patte qui pousse à la place d'une antenne. Parce que là encore, vous avez dans la structure qui va produire l'antenne, qu'on appelle un disque imaginal, mais peu importe, eh bien vous avez maintenant une combinaison génétique qui correspond à la patte, donc la mouche va faire une patte. Donc ce sont des gènes qui sont responsables de l'identification de structures. Alors chez la mouche, il y en a 8 que vous voyez là, et dans les années 70, il a été montré qu'en fait, 70, 80, 90, que ces gènes étaient distribués en deux complexes de gènes, deux clusters de gènes, des petits groupes de gènes sur des chromosomes. Un groupe qui s'appelle bithorax et un groupe qui s'appelle antennapédia. La chose très particulière qui a été découverte dans les années 70 par Ed Lewis, qui lui a valu le prix Nobel d'ailleurs, c'est que ces clusters sont en fait utilisés comme matrice pour déterminer les endroits où ces gènes vont être exprimés. Quelque chose de totalement inattendu, où par exemple, ce gène ici, abdominal B, va être exprimé dans la partie la plus postérieure de la mouche, et puis celui-ci un peu moins, et puis on saute sur l'autre cluster, où on a ici un peu moins, et puis labial, dans le labium, hein, donc dans la partie la plus antérieure. Donc on a une sorte de copie que vous voyez là, on a une sorte de copie sur les chromosomes, deux endroits des chromosomes, de l'axe antéro-postérieur de la mouche. D'accord? Alors, pourquoi ces deux groupes de gènes ici sont-ils réunis sur tous ces schémas? Parfois, on a même de la peine à voir cette cassure, alors que c'est deux clusters qui sont pourtant très différents l'un de l'autre, hein, qui sont localisés sur le même chromosome, mais à des endroits très différents. Eh bien, parce que dans les années 88-89, il s'est avéré que les vertébrés, nous-mêmes, avons également des clusters de ces gènes, et que ces clusters ne sont pas cassés. Donc, nous avons, nous, 4 clusters de gènes OX, homéotiques. Alors, pourquoi 4? Parce que, souvenez-vous, nous sommes octoploïdes. Les vertébrés sont en fait des arthropodes octoploïdes. C'est-à-dire qu'à la base, à la source de l'embranchement des vertébrés, il y a eu deux duplications générales de notre génome. Et donc on avait en principe 4 copies de chaque copie de gènes des arthropodes, de la mouche, des araignées. Alors évidemment, on en a éliminé quelques-unes, et puis d'autres se sont amplifiées, etc. Mais on reconnaît très souvent le fait que nous avons dupliqué nos chromosomes deux fois. Comment ça se fait? C'est très simple. Hein. Il suffit de faire une réplication de votre ADN sans faire de division cellulaire. Ça arrive parfois, c'est pas souhaitable, mais parfois, ben voilà, ça a marché à un moment donné, ce qui a été probablement la source de l'embranchement des vertébrés, puisque évidemment, ça a permis de démarrer des innovations absolument extraordinaires. Donc, nous avons 4 complexes de ces gènes OX, ce sont des complexes complets, et en fait, dans les années 1989, nous sommes aperçus que finalement, c'était les mêmes gènes, ce qu'on appelle des gènes orthologues, hein, on a déjà parlé de ça, que chez la mouche. Sauf que chez la mouche, ces deux clusters se sont cassés, donc on a 2 demi-clusters. Donc ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y avait un cluster original que l'on retrouve chez beaucoup d'arthropodes actuellement, chez la sauterelle, chez les crevettes, vous aurez un grand cluster de gènes OX. Et puis, dans la voie des vertébrés, il y a eu 2 duplications totales, donc nous en avons 4. Et puis chez les diptères, c'est cassé en 2, et il y a 2 demi-clusters. Alors, pourquoi il a pu se casser chez les diptères, ça vous intéresse, on va en parler en dehors du cours, c'est vraiment très intéressant, mais voilà. Dans les années 90, beaucoup de laboratoires se sont aussi aperçus qu'en fait, la fonction de ces gènes chez les vertébrés est très proche de celle que l'on a vue chez la mouche. Ils ont aussi des fonctions qui consistent à identifier des structures, et je vais vous montrer 2 exemples qui sont vraiment facilement compréhensibles. Vous voyez ici des squelettes de souris. Au centre, vous avez la formule vertébrale correcte dans la région lombaire. Les souris sont L6, contrairement à nous qui sommes L5, hein, nous avons généralement 5 vertèbres lombaires, les souris en ont 6. Eh bien, vous voyez qu'en modifiant un seul gène, OX, qui est le gène numéro 11, on peut, si on descend ce gène, on peut rajouter des vertèbres, on peut aller jusqu'à L8, lombaire. Si on remonte ce gène, eh bien on va réduire le nombre. On peut aller de 4 à 8. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est fabriquer des parents qui ont des allèles, donc des versions différentes génétiques, et pratiquement dans la même portée, vous pouvez avoir des petits, vous voyez, qui sont plus longs que leurs frères et sœurs, parce qu'il y en a qui auront hérité des versions de ce gène qui seront exprimées un peu plus antérieures, dans la colonne somitique, on va y arriver, hein, ça commence à faire du sens, en fait, et une autre mutation où le gène est exprimé de façon plus postérieure. Alors, je vous montre ce que je veux dire par là sur l'autre exemple, qui est un très beau travail qui a été fait dans le laboratoire de Mario Capecchi par Denis Velik. Et là, vous voyez encore 3 situations différentes. Ça, c'est la situation normale, avec les 5 vertèbres lombaires chez la souris. Ici, le sacrum, la queue, le thorax. C'est la situation normale. Vous voyez que le gène OX qui marque le passage de la région lombaire ici à la région thoracique, c'est le gène numéro 10. Donc, imaginez-vous, revenons à cette horloge somitique. Vous avez ces condensations, condensations, condensations. Au moment où vous condensez le somite qui sera au niveau de la transition thoraco-lombaire, eh bien, il faut que le gène 10 soit là. C'est ce gène 10 qui va faire cette transition. D'accord ? Comment il va faire cette transition ? Ben simplement en supprimant les paires de côtes. Alors, comment est-ce qu'on peut voir ça ? Ben là, vous avez une souris dans laquelle, par un artifice génétique, on a pu descendre, ces auteurs ont pu descendre l'expression du gène numéro 10 de beaucoup plus postérieure. Et vous voyez que cette souris, en fait, maintenant, va avoir des paires de côtes tout le long, jusqu'au sacrum, parce que l'information génétique qui dit « arrêtez maintenant de faire des côtes parce qu'on rentre dans la région lombaire » n'est plus là. Donc une transformation homéotique, selon Bateson, homéo, qui veut dire « qui ressemble à ». Hein, on a maintenant, dans la région lombaire, des vertèbres qui ressemblent à des vertèbres thoraciques. Inversement, que se passe-t-il si maintenant vous prenez le gène numéro 10 et puis vous l'activez beaucoup trop antérieur ? Ben vous allez supprimer toutes les côtes. Parce que l'information qui est portée par ce gène qui dit « on arrête de faire des côtes », si vous la mettez ici, eh ben, il n'y aura plus de côtes. D'accord ? Donc ce sont là vraiment ce qu'on appelle des phénotypes homéotiques, c'est-à-dire la transformation d'une structure dans le likeliness, comme avait dit Bateson, qui ressemble à une autre structure. Alors maintenant que vous voyez ça, vous comprenez pourquoi ces gènes OX doivent être activés dans une temporalité. Imaginez que tous ces gènes soient activés en même temps, eh bien on aurait une situation de ce genre. Imaginez que tous les gènes soient exprimés trop tard, on aurait des codes jusque dans la partie sacrée. Donc il faut absolument qu'il y ait une temporalité extrêmement précise pour que chaque fois qu'une vertèbre se concentre, qu'un summit se condense, on soit dans un niveau de l'activation de ce timer OX qui fait que la bonne combinaison rentre dans ces cellules summitiques. D'accord ? Donc c'est la coordination entre cette horloge de segmentation qui est totalement itérative, je produis, je produis, je produis, avec un timer qui fait je spécifie, je spécifie, je spécifie, je spécifie. C'est pour ça que c'est un timer, parce que c'est linéaire. On n'est pas dans un système itératif. On a un morceau de chromosome, on va passer au travers du morceau de chromosome et on s'arrête. On n'est pas du tout dans un système itératif. C'est une progression, d'où le mot timer. Alors la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est où cela se passe, et vous voyez, une fois de plus, c'est des petits embryons de souris. Et encore une fois, tout se passe dans cette partie la plus postérieure. Souvenez-vous, ça, c'est pratiquement ce que je vous montrais tout à l'heure sur l'horloge de segmentation, hein, donc dans la partie postérieure. Ce mésoderme présomitique ici, eh bien, c'est là où sont activés ces gènes OX. Donc ces gènes OX sont activés dans la partie la plus postérieure, qui est la partie qui est la source, en fait, du gradient qui fixe le front de détermination. Hein, c'est ces fameuses cellules NMP, donc des progéniteurs neuromésodermiques. Hein, vous voyez ici, j'ai pris un petit schéma de cette publication d'Alfonso Martinez Arias, où l'on voit très bien le bas ici, avec cette population-là qui est en mitose, hein, qui descend. D'accord ? Et vous voyez ici, cette population verte, de progéniteurs neuromésodermiques qui vont alimenter, qui vont se diviser et qui vont alimenter à la fois le système nerveux, parce qu'évidemment quand vous descendez votre moelle épinière, ben il faut l'allonger aussi, hein, donc qui vont alimenter à la fois le système nerveux et tout le mésoderme qui va sortir, le mésoderme axial, le mésoderme paraxial, etc. D'accord ? C'est pour ça qu'on appelle ces cellules des progéniteurs P neuromésodermique. D'accord ? Alors, ça c'est un petit schéma qui vous montre ce qui se passe chez les oiseaux. Je vous montre ici la vraie position de ces cellules tirées d'une publication qui n'est même pas publiée, en fait, qui est déposée sur des archives en ligne, qui va être publiée bientôt. Une publication magnifique de Merlin Languet et de Loïc Royer, qui sont deux Français établis en Californie. Et vous voyez, chez le poisson zèbre, chez le petit poisson zèbre, vous voyez pareil, ici on a les somites, le mésoderme présomitique, et puis ici, c'est cette population de cellules, hein, qui va alimenter cette partie la plus caudale, qu'on voit très bien ici, c'est NMP, là. Alors, ce que ces auteurs ont fait, et je vais terminer là-dessus aujourd'hui, c'est exactement ce que je vous montrais pour ces neuroblastes. C'est que toutes ces hybridations in situ, etc., c'est joli, c'est sympathique, mais enfin, c'est un peu has-been. Alors, plutôt que de faire ça, eh bien, on va prendre maintenant des poissons, on va séquencer massivement en faisant du single au niveau cellulaire. Donc, on va simplement essayer de mapper tous les transcriptomes cellulaires sur un UMAP, souvenez-vous, sur un espace à X dimensions. Hein, et je vous montre ici, simplement pour vous donner une idée, ils ont séquencé 120 444 cellules à partir de 40 spécimens avec tous ces temps différents. Donc, il faut vous imaginer à quel point, en fait, la technologie a changé, à quel point les outils analytiques ont transformé les approches biologiques. Il y a encore 10 ans, on aurait pris peut-être une quarantaine de gènes pour essayer de voir gène par gène ce qui se passe. Là, c'est fini, on prend des 40 poissons, on mélange tout, on dissocie les cellules, on séquence tout, et puis on obtient cette magnifique œuvre d'art un peu surréaliste, où on voit ces clusters, hein, on en a discuté il y a 2 semaines. Vous voyez les NMP ici? Alors, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là, peut-être, c'est simplement pour vous dire que cette représentation n'a aucun sens topologique. Hein, c'est juste un espace, et chaque point est une cellule, et les cellules sont classées par leurs affinités en ARN. Donc, 2 cellules qui ont des ARN identiques se superposent, et puis des cellules qui ont des ARN très proches, des ARN qui ont une distribution d'ARN très proche sont proches l'une de l'autre, et puis des cellules qui sont radicalement différentes sont très éloignées l'une de l'autre. Eh bien, vous voyez qu'on a ici des cellules LMP, et comme on s'y attendait, on a cette branche qui part pour faire le système nerveux postérieur, hein, NMP, donc progéniteur neuromésodermique. Et puis toute cette partie-là qui est du mésoderme, vous voyez, on part ici avec du mésoderme présomitique. Souvenez-vous la lame latérale, je vous parlais de la lame latérale, hein, qui va faire les membres, c'est le rouge qui était sur les côtés. Et puis là, on va avoir les somites, les muscles, le dermomyotome ici, et le sclérotome, les vertèbres. C'est magnifique, on voit vraiment qui donne quoi. Hein. Alors l'avantage de ce système, c'est que lorsqu'on a ça, eh bien, on peut poser la question, où sont exprimés les gènes Hox là-dedans? Comme tous les gènes qu'on a envie de voir. Et on peut définir avec une très très grande précision si ces gènes sont déclenchés dans les NMP, dans le PSM, etc. Parce qu'on va le voir directement. Il suffit de dire à l'ordinateur, montre-moi où se trouve l'ARN pour le gène Hox numéro 10. Et puis ça vient. D'accord? Et ces auteurs font ça, bon, on le savait en gros, mais ils le font d'une façon systématique, et ils arrivent avec cette image-là, qui est très satisfaisante, pour moi en tout cas. On voit tous les gènes Hox ici, et on voit tous les groupes, donc les groupes de paralogie, c'est-à-dire ici vous avez le gène le plus postérieur, ici le plus antérieur, et puis vous avez ici les stades de développement. Et vous voyez que au début, il n'y a pas beaucoup de changements. On verra pourquoi la semaine prochaine. Il n'y a pas beaucoup de changements. Et puis là, on commence à avoir une sorte de dégringolade. Vous voyez, on tombe. D'accord ? Ce qui veut dire que le gène le plus postérieur, ici, il arrive plus tard que celui-ci. Hein ? Regardez ce gène-là, numéro 13. Eh bien, il n'est pas exprimé à 5 somites, 10 somites, 15 somites, 20 somites. Il commence à apparaître à 20 somites. D'accord? Donc, imaginez encore une fois, on condense. Et au stade 20 somites, on commence à voir ce gène numéro 13 qui apparaît dans les NMP. D'accord? Donc, c'est un gène qui va se retrouver. Donc, il va apparaître en bas dans les NMP. C'est un gène qui va se retrouver tranquillement au niveau 25 somites, 26, 26, 27 somites. D'accord? Donc, je vais résumer ce que je vous ai dit aujourd'hui en essayant de vous montrer cette image-là, qui vraiment est essentielle pour ce que je vais vous dire la semaine prochaine, et qui résume un peu ce système logique, en fait, cette combinatoire de gènes Hox. Hein. Donc on a encore une fois ce mésoderme présomitique, on a ici la source de gradient hein, pour l'horloge somitique, ça descend, et cette cellule-là, en fait, qui sort du NMP, qui sort du pool de cellules ici, cette cellule-là va exprimer une certaine combinaison de Hox. Si j'ai mis Hox X, ça peut être 5 par exemple, et si ici on est à 5, on va avoir plus 1, plus 2, plus 3. D'accord? Donc, vous avez une cellule qui va sortir ici, cette cellule-là, elle aura OX X plus, disons que c'est OX 11, cette cellule-là sera 12, cette cellule-là sera 13. D'accord ? Donc on va avoir dans ces cellules NMP, comme je vous le montrais ici, dans ces cellules NMP, on va avoir ce timer qui va se dérouler. Donc on a d'un côté une itération, on produit des somites, et de l'autre côté, on a un système de cran. D'accord ? Et ce système de cran, il suit le cluster sur le chromosome. C'est un timer. Alors après, on peut faire évidemment toutes les hypothèses. Imaginez que vous bégayez un cran, ben vous allez produire 40 vertèbres qui seront identiques. Hein ? Vous continuez à produire vos vertèbres chez les serpents, vous produisez, et puis là, ben vous arrêtez. Et puis vous arrivez au sacrum, 40 vertèbres plus postérieures, paf, vous redémarrez. D'accord ? Donc ça vous permet en fait de faire les combinaisons que vous souhaitez, mais ça vous permet aussi de fixer pour chaque espèce la formule vertébrale que vous devez respecter. Alors évidemment, tout repose sur le mécanisme qui fait que ce timer se déroule en fait dans ces cellules NMP. Et c'est ce mécanisme précis dont je vous parlerai la semaine prochaine, qui est assez compliqué, mais je pense qu'en une heure et quart, on aura largement le temps de passer dessus. Voilà, je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.